Chapitre 9, qui, entre autres choses, peut servir de commentaire à ce que dit Échine, que l'ivresse montre le cœur de l'homme comme un miroir réfléchit les traits de son visage. Le lecteur peut s'étonner de n'avoir pas entendu parler de M. Jones dans le chapitre précédent. Mais le fait est que sa conduite était si différente de celle des personnages que nous y avons montrés que nous n'avons pas voulu confondre son nom avec les leurs. Quand l'excellent homme eut fini son discours, Jones fut le dernier qui abandonna son appartement. Il se retira, mais l'agitation de son âme ne lui permit pas d'y rester longtemps. Il se glissa donc doucement à la porte de la chambre de M. Allworthy, où il écouta un temps considérable sans y entendre aucun bruit, excepté un ronflement très fort que ses craintes lui représentèrent bientôt comme les gémissements d'un homme à l'agonie. Ce qui l'alarma au point qu'il ne put s'empêcher d'entrer dans la chambre, où il trouva le digne homme jouissant du plus doux sommeil, et sa garde auprès de son lit ronflant de tout son cœur. Il prit, en l'éveillant, le seul moyen d'imposer silence à cette basse continue, dont il craignait que la musique ne troublât le repos de M. Allworthy, et, s'asseyant auprès d'elle, il y resta sans faire le moindre mouvement, jusqu'au moment où Blifil et le docteur entrèrent. Ils réveillèrent le malade pour que le docteur pût lui tâter le pouls, et que l'autre pût lui communiquer ses nouvelles, qui, certes, auraient trouvé plus de difficulté à parvenir, dans un tel moment, aux oreilles de M. Allworthy, si Jones en eût été instruit. Aussitôt qu'il eut entendu l'histoire que Blifil contait à son oncle, il put à peine contenir la colère que lui inspirait une telle indiscrétion, surtout quand le docteur secoua la tête et déclara que c'était contre son gré qu'on en parlait à son malade. Mais comme sa colère ne l'avait pas assez privé de jugement pour lui cacher les conséquences fâcheuses qui pourraient en résulter pour la santé de M. Allworthy, s'il s'emportait trop vivement contre Blifil, cette crainte le retint pour le moment. Et voyant par la suite que ces nouvelles n'avaient en effet produit aucun mal, il en conçut tant de joie qu'il étouffa son indignation dans le fond de son cœur et n'en dit jamais un seul mot à Blifil. Le médecin dîna ce jour-là chez M. Allworthy, et, ayant été voir son malade après le dîner, il rentra dans la salle à manger et dit qu'il avait maintenant la satisfaction de pouvoir assurer que le malade était tout à fait hors de danger, que la fièvre l'avait entièrement quitté et qu'il était certain de l'empêcher de revenir en lui faisant prendre du quinquina. Cette nouvelle plut si fort à Jones et lui causa un ravissement si immodéré qu'on pouvait dire avec vérité qu'il était ivre de joie. Et comme le plaisir porté à cet excès augmente considérablement les effets du vin, et que d'ailleurs il en fit beaucoup d'usage dans cette circonstance, car il but un grand nombre de rasades à la santé du docteur, sans compter plusieurs autres toasts, il devint bientôt ivre à la lettre. Les esprits animaux de Jones étaient naturellement vifs. Une fois mis en mouvement, et encore augmentés par les fumées du vin, ils produisirent les effets les plus extravagants. Il embrassa le docteur avec les transports les plus passionnés, jurant qu'après M. Allworthy, il était de tous les hommes vivants celui qu'il aimait le plus. « Docteur, ajouta-t-il, vous méritez qu'on vous élève une statue aux frais du public, pour avoir conservé un homme qui n'est pas seulement chéri par tous les gens vertueux qui le connaissent, mais qui fait encore le bonheur de la société, la gloire de son pays et l'honneur de l'humanité. Dieu me damne si je ne l'aime mieux que mon âme. » « Tant pis pour vous, s'écria Thwackum, quoique je pense que vous ayez raison de l'aimer, car il a été très bienfaisant envers vous, et peut-être aurait-il mieux valu pour quelques personnes qu'il n'eût pas assez vécu pour avoir de trop justes motifs de révoquer ses dons. » Jones, jetant sur Thwackum un regard de dédain bien marqué, lui répondit « Ton âme basse s'imagine-t-elle que de telles considérations puissent produire quelque effet sur moi ? Que la terre s'entr'ouvre et s'engloutisse elle-même quand je posséderai des millions d'arpents de misérables poussières qui la couvrent, plutôt que d'engloutir le cher et tendre ami dont je me fais gloire. Quis desiderio sit pudor aut modus tam cari capitis. Si j'avais à pleurer une tête si chère, rien ne mettrait de borne à ma douleur amère. » Le docteur, se mettant entre eux, prévint les effets de la colère qui s'allumait entre Jones et Thwackum. Le premier éclata bientôt d'un rire inextinguible, chanta deux ou trois chansons un peu libres, et fit mille extravagances, qu'une joie sans bornes peut seule excuser. Mais il était si loin d'être disposé à quereller qu'il fut 10 fois plus gai et plus aimable, s'il est possible, que quand il était sobre. À dire vrai, il n'y a rien de plus erroné que l'observation faite communément que les hommes querelleurs et méchants, quand ils sont ivres, sont très doux et très bons quand ils sont sobres. Car le vin ne change pas entièrement la nature et ne crée pas dans les hommes des passions qui n'existaient pas en eux auparavant. Il ôte à la raison ses gardes accoutumés et la force de découvrir ses vices, qu'un grand nombre d'hommes, tandis qu'ils sont sobres, ont l'art pour dérober aux yeux. Il excite et enflamme nos passions, et surtout celles qui nous dominent, en sorte que l'homme colère, celui qui est amoureux, gai, généreux, avare, etc., le devient et le paraît davantage dans le sein de l'ivresse. Mais cependant, comme il n'y a pas de nation où le vin produise plus de querelles que dans la nation anglaise, surtout parmi le bas peuple, car boire et se battre sont pour lui les termes presque synonymes, je ne voudrais pas qu'on en conclue que les Anglais sont le peuple le plus méchant de tous. Peut-être même l'amour de la gloire fait-il le fond de leurs querelles. D'autant mieux que dans ces sortes de querelles, on aurait peine à citer un trait de perfidie ou de méchanceté, ou même un manque de générosité. Il est au contraire très commun que tout en se battant, les deux athlètes se témoignent des égards mutuels, et comme la gaieté que le vin produit en eux finit généralement par une batterie, la plupart de leurs batteries finissent par la plus cordiale amitié. Mais, pour reprendre le fil de notre histoire, quoique Jones n'eût montré aucun projet d'offenser qui que ce fût, M. Blifil fut vivement blessé d'une conduite qui s'accordait si peu avec la sobre et prudente réserve de son caractère. Il parut en souffrir d'autant plus qu'elle lui semblait très indécente, dans une circonstance où la maison, disait-il, était une maison de deuil, relativement à la perte qu'il venait de faire d'une mère chérie. Il dit que s'il plaisait au ciel de lui faire espérer la prochaine convalescence de M. Allworthy, il serait beaucoup plus convenable d'exprimer la joie de leur cœur par des actions de grâce que par l'ivrognerie et la débauche. Moyen plus propre, ajouta-t-il, à augmenter qu'à détourner les effets de la colère divine. Thwackum, qui avait bu plus de vin que Jones, mais sans que sa tête en fût affectée, seconda la pieuse harangue de Blifil. Square, pour certaines raisons que le lecteur devine probablement, garda un silence absolu. Le vin n'avait pas troublé Jones au point de ne pas se rappeler la perte que M. Blifil avait faite. Au moment où on l'en fit souvenir, et comme personne n'était plus prompt que lui à confesser et à condamner ses propres erreurs, il avança la main pour prendre celle de M. Blifil et lui demanda pardon, en disant que la joie excessive qu'il avait ressentie de la convalescence de M. Allworthy lui avait ôté toute autre pensée de l'esprit. Blifil repoussa sa main avec mépris et lui répondit avec la plus vive indignation qu'il fallait peu s'étonner si les spectacles les plus tragiques ne faisaient aucune impression sur les aveugles, que pour lui il avait le malheur de connaître ses parents et devait être par conséquent touché de leur perte. Jones, qui nonobstant sa gaieté, avait quelque chose d'irascible dans le caractère, se leva précipitamment de sa chaise et, sautant au collet de Blifil, s'écria « Que le ciel te punisse, infâme que tu es, d'oser insulter au malheur de ma naissance. » Il accompagna ces mots de gestes si rudes que le caractère paisible de M. Blifil n'y put tenir. Il s'ensuivit aussitôt une bataille qui aurait pu produire quelque malheur si elle n'avait pas été arrêtée à temps par l'entremise de Thwackum et du docteur. Car la philosophie de Square le rendait supérieur à toutes les émotions, et il continua tranquillement de fumer sa pipe, comme c'était son usage dans toutes les querelles où il ne craignait pas qu'on la lui brisât dans la bouche. Les combattants, mis hors d'état de se venger l'un de l'autre, n'eurent d'autre ressource que de donner entière carrière à leur fureur, par des menaces et des défis. Mais dans ce genre de combat, la fortune fut tout aussi favorable à l'ennemi de Jones qu'elle l'avait été à Jones dans le combat précédent. À la fin, cependant, les deux parties consentirent à une trêve, par la médiation des parties neutres, et toute la compagnie se remit à table. Jones demanda pardon à Blifil, celui-ci le lui accorda, la paix fut rétablie, et tout fut remis in statu quo. Mais quoique, selon toute apparence, la querelle fût entièrement assoupie, la gaieté qu'elle avait interrompue ne parvint pas à se rétablir. La joie était éteinte, et l'on ne s'occupa plus que de graves discussions et de non moins graves observations, sorte de conversation pleine de mérite sans doute, et d'où l'on peut tirer beaucoup d'instructions, mais fort peu de plaisir. Or, comme c'est seulement du plaisir que nous voulons procurer à nos lecteurs, nous passerons sous silence tout ce qui fut dit jusqu'à ce que, toute la compagnie s'étant peu à peu retirée, Square et le médecin restèrent seuls. La conversation se réchauffa alors un peu, au moyen de quelques commentaires sur ce qui s'était passé entre les deux jeunes gens. Le docteur déclara qu'il ne valait pas mieux l'un que l'autre, ce que le philosophe approuva d'un mouvement de tête plein de finesse et de pénétration. Chapitre 10. Démontrant la vérité d'un grand nombre d'observations faites par Ovide et par beaucoup d'autres écrivains plus graves encore, qui ont prouvé sans réplique que le vin est souvent l'avant-coureur de l'incontinence. Jones, en quittant la compagnie, alla se promener dans la campagne pour se rafraîchir un peu au grand air avant de rentrer chez M. Allworthy. Mais, tandis que tout occupé de sa chère Sophie, il se livrait à ses douces méditations que la maladie dangereuse de son ami et de son bienfaiteur avait interrompues, il lui arriva un accident que nous raconterons avec douleur, et qu'on lira sans doute avec non moins de peine. Cependant, la vérité historique pour laquelle nous professons un si inviolable attachement nous oblige de le communiquer à la postérité. C'était dans une des charmantes soirées des derniers jours du mois de juin que notre héros se promenait sous un petit bois délicieux, où le souffle léger des zéphyrs agitant les feuilles, le doux murmure d'un ruisseau qui serpentait près de là, et les sons mélodieux des rossignols formaient ensemble l'harmonie la plus enchanteresse. C'est dans ce lieu si propre à l'amour qu'il rêvait à sa chère Sophie. Tandis que ses pensées amoureuses s'égaraient dans l'infini, en contemplant toutes ses beautés, et que sa vive imagination lui peignait cette charmante personne sous les formes les plus variées et les plus ravissantes, son cœur brûlant ne respirait que l'amour. Enfin, se jetant sur le gazon qui bordait le ruisseau, il s'écria « Ô Sophie, si le ciel me permettait de te serrer ici dans mes bras, que mon sort serait heureux. Combien je la maudis, cette fortune, qui met tant de distance entre nous. Oh, si je te possédais, n'eusses-tu pour tout bien que les haillons les plus misérables, serait-il un homme sur la terre que j'enviasse? Combien la plus brillante beauté de la Circassie, parée des plus riches ornements de l'Inde, paraîtrait méprisable à mes yeux. Mais, que dis-je, si je pouvais penser que mes yeux pussent jamais regarder une autre femme avec tendresse, je les arracherais à l'instant. Non, ma Sophie, si la fortune cruelle nous sépare pour toujours, mon cœur n'aimera jamais que toi seule. Je conserverai pour ton image la constance la plus pure. Quoique je ne doive jamais posséder ta personne charmante, toi seule posséderas toujours mes pensées, mon amour, mon âme. Oh, mon cœur brûlant palpite pour toi dans mon sein avec tant de violence que les plus brillantes beautés n'auraient pour moi aucun charme et que leurs embrassements trouveraient en moi toute la froideur d'un anachorète. Sophie, Sophie seule sera mon idole. Quel ravissement j'éprouve à ce nom. Je veux le graver sur tous les arbres. » À ces mots, il se lève et aperçoit, non sa Sophie, non une belle circassienne richement et élégamment parée pour le sérail du grand seigneur, mais une fille de campagne, toute dégoûtante de sueur, ayant une fourche de fer à la main, vêtue seulement d'une chemise des plus grossières et non des plus propres. Molly Seagrim, enfin. Notre héros tenait son canif dans le dessin dont nous venons de parler, quand Molly, s'approchant de lui, s'écria avec un sourire « Vous n'avez pas le projet de me tuer, j'espère. » « Comment pouvez-vous penser que je veuille vous tuer ?» répondit Jones. « Après la cruelle manière dont vous m'avez traité la dernière fois que je vous ai vu, répliqua-t-elle, la mort serait peut-être trop douce pour moi. Je ne dois pas l'attendre de votre bonté. » Il s'ensuivit un dialogue que je crois pouvoir omettre. Il me suffira de dire qu'il dura un quart d'heure entier et que sa conclusion fut qu'ils se retirèrent ensemble dans la partie la plus épaisse du bois. Quelques-uns de mes lecteurs seront portés à croire que cet événement n'était pas naturel. Cependant, le fait est vrai. Et peut-être s'explique-t-il en supposant que Jones pensait probablement qu'une femme valait mieux que rien, comme Molly imaginait probablement aussi que deux hommes valaient mieux qu'un. Outre l'excuse que j'apporte à la conduite présence de Jones, le lecteur voudra bien se souvenir qu'en ce moment, il ne possédait pas parfaitement cette merveilleuse raison qui rend les hommes graves et prudents si capables de subjuguer leurs passions déréglées et de ne jamais se livrer à ces sortes de tentations. Le vin en avait absolument ôté le pouvoir à Jones. Il était dans un état où, si la raison elle-même se fût présentée à lui, ne fût-ce que pour lui donner des conseils, elle en aurait reçu la réponse qu'un certain Cléostrate fit, il y a un grand nombre d'années, à un sot qui lui demandait s'il n'était pas honteux d'être ivre. « N'êtes-vous pas honteux vous-même, lui répondit Cléostrate, de donner des conseils à un homme ivre ? Il est certain qu'à un tribunal de justice, l'ivronnerie ne doit pas servir d'excuse, mais elle en est une fort bonne au tribunal de la conscience. C'est pourquoi Aristote, qui fait un grand éloge des lois de Pythagore, par lesquelles les crimes commis par l'ivronnerie recevaient une double punition, convient qu'il y a plus de police que de justice dans ces lois. Or, s'il y a quelque faute que l'ivrognerie puisse excuser, c'est assurément celle dont M. Jones se rendait coupable en ce moment. Je pourrais encore m'étendre sur ce sujet et y répandre une abondante et vaste érudition si j'imaginais faire plaisir à mon lecteur, ou lui apprendre quelque chose. Mais pour l'amour de lui, je garderai mon érudition pour moi et je reprends le fil de mon histoire. On a observé que la fortune fait rarement les choses à demi, et il est vrai qu'elle ne s'arrête ni dans ses bienfaits, ni dans ses rigueurs. Notre héros était à peine entré dans le bois avec sa Didon que « Speluncam Blifil dux divinus eumdem deveniunt ». Le ministre et M. Blifil, qui se promenaient et s'entretenaient de choses sérieuses, arrivèrent ensemble au chemin qui y conduisait, et ce dernier les aperçut au moment même où ils s'éloignaient. Blifil reconnut Jones parfaitement, quoiqu'il fût à plus de 100 toises de distance. Il reconnut bien aussi que c'était une femme qui était avec lui, quoiqu'il ne pût la distinguer. Il tressaillit de joie, se félicita de sa découverte et remercia le ciel hautement. Thwackum parut surpris de ses mouvements soudains et lui en demanda la cause. Blifil lui répondit qu'il était certain d'avoir vu un homme et une femme se retirer ensemble parmi les buissons, et ajoutant que ce ne pouvait être que pour quelque mauvais dessein. Quant au nom de Jones, il jugea convenable de le taire, et je laisse au lecteur pénétrant à en deviner la raison. Car nous aimons mieux ne pas assigner de motif aux actions des hommes quand il existe quelque possibilité de nous tromper sur les véritables. Le ministre, qui non seulement possédait au suprême degré la vertu de la chasteté, mais détestait encore dans les autres le vice qui lui était opposé, fut transporté de colère à cette nouvelle, et pria M. Blifil de le mener à l'endroit en question. À mesure qu'il en approchait, il semblait ne respirer que vengeance. Tout en entremêlant ses menaces de soupirs et de lamentations, il ne pouvait même s'empêcher de faire quelques réflexions indirectes sur M. Allworthy, insinuant que la perversité du comté était due principalement aux encouragements qu'il avait donnés au vice par son extrême bonté pour un misérable bâtard, et sa facilité à mitiger les justes et salutaires rigueurs de la loi qui punit sévèrement les filles débauchées. Le chemin par lequel nos chasseurs devaient passer pour surprendre leur gibier était tellement embarrassé de ronces que leur marche en fut fort retardée, ce qui, joint au bruit qu'ils faisaient en marchant, laissa à Jones le temps de s'apercevoir de leur arrivée avant qu'ils pussent le surprendre. Mais Thwackum était si peu capable de cacher son indignation, et il proférait de telles menaces à chaque pas qu'il faisait, que cela seul convainquit Jones qu'il avait été, pour me servir du langage des chasseurs, trouvé au gîte.